C'est l'écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence. Écho du silence.
Bienvenue sur l'écho du silence, le podcast qui met en lumière les communautés invisibilisées du territoire breton. Cette émission est dédiée à la communauté des personnes en situation administrative irrégulière. Aujourd'hui, nous accueillons Bounturabi, qui a vécu en situation administrative irrégulière après son arrivée en France. Elle a eu la chance de bénéficier des services de l'association 100 pour un toit. Ensuite, nous recevrons Geneviève et Gilles, bénévoles de l'ADIT Association, qui vont vous parler de leur mission d'accompagnement des personnes sans papier.
Je m'appelle Bounturabi, j'ai 24 ans. Ça fait 4 ans, bientôt 4 ans, j'habite Morlaix. Aujourd'hui, je partage mon expérience parce que je pense que ça peut aider et inspirer d'autres personnes. Sans pour un toit, un jour, j'étais dans mon lit. Et puis, comme j'étais à la maison, je ne sortais pas. En ce moment, ça parlait de partout. Les personnes sans papier, quand on t'attrape, on va te rapatrier. Du coup, je suis restée dans mon lit. J'ai tapé sur Google les associations caritatives à Morlaix. Et il y avait plusieurs associations comme Emmaüs. Mais je connaissais déjà Emmaüs. Comme je ne connaissais pas sans prendre un toit, ça a attiré mon attention. Du coup, j'ai cherché leur numéro sur Google. Je les ai appelés et puis tout de suite, ils m'ont répondu. L'association 100 pour un toit m'a apporté tout. C'est grâce à l'association 100 pour un toit aujourd'hui et je suis devant vous. L'association 100 pour un toit m'ont logé, m'ont nourri et m'ont éduqué, je vais dire comme ça, parce que grâce à eux, j'ai recommencé les études en France. Du coup, ils m'ont donné tout. Surtout, le soutien moral. Parce que celle qui est assise là, Geneviève Mahout, elle a été une grande aide et soutien pour moi. Parce que quand je suis stressée, je l'envoie un message. Mais elle me disait toujours un mot. Quelle qu'en soit la situation, je ne vais pas te lâcher. Jusqu'à maintenant, le mot là résonne dans ma tête. Je ne vais jamais oublier ce mot. Tout le temps, quand j'ai besoin, elle me dit, t'inquiète pas, on ne va jamais te lâcher. Surtout le soutien moral. Parce que arrivé à un certain de ma vie, j'avais besoin de ça. Du coup, sans pour un toit, ils m'ont tout donné. Tout. J'avais besoin de l'accompagnement. Et je l'ai eu. Plus que ça même. Sur le plan administratif, professionnel. Parce que si j'avais pas été à l'école, j'aurais pas le courage de faire ce que je fais maintenant. Parce que c'est à l'école j'ai appris tout ce qui est accompagnement des personnes. Je savais pas, je connaissais pas ce métier avant. C'est quand j'ai été à l'école que j'ai connu ça.
C'est l'écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence. Écho du silence.
Je suis arrivée en France en novembre 2021. J'ai fait la demande d'asile. Mais ça a été refusé. Ils m'ont dit que je devais retourner en Italie parce que je suis rentrée en France par la voie illégale. Je suis restée dans ça pendant 9 mois. C'est la période qui m'a traumatisée parce que dire à quelqu'un, tu dois te retourner là où tu viens. Dans ma tête que la police va venir me prendre et puis me rapatrier. Du coup, je ne pouvais même pas rester chez moi. Parce que quand je reste chez moi, pour moi, c'est une honte quoi. La police vient te récupérer dans le foyer devant tout le monde. Du coup, je ne restais pas chez moi. Je partais tout le temps signer à la police pour prouver ma présence. Là, comme ça, s'ils vont me rapatrier, c'est là-bas où on me prend directement. C'est là-bas, à la police, on m'a pris et puis on m'a ramené en Italie en août 2022. Du coup, je suis partie en Italie, mais la barrière de la langue, en français, je ne parle pas bien, mais je me débrouille. Pour moi, la France était pour moi une opportunité parce que déjà, je me débrouillais un peu en français. Du coup, ils m'ont ramené en Italie, je suis revenue en France. C'est quand je suis revenue en France, mois de septembre, octobre, novembre, j'ai connu l'association 100 pour un toit. Depuis là, ma vie a changé. C'est grâce à eux. Aujourd'hui, je souris. Avant, c'était compliqué pour moi. Je sortais pas, j'étais à la maison.
C'est l'écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence. Écho du silence.
Petite précision. Mort la Liberté, c'est une association qui aide les personnes étrangères pour leurs dossiers administratifs. C'est grâce à l'aide des bénévoles de cette association que Bounturabi a obtenu le statut de réfugié.
Je ne sais pas comment je vais formuler ça. Parce que ici, l'accès à l'hôpital, c'est plus pratique. Tu sois noir, blanc. Sous ce coup, il n'y a pas de différence. Quand tu es malade, on te traite. Du coup, ça, surtout ça. Et l'éducation aussi. Pas seulement pour les riches, pour aller à l'école. Tu es riche, non riche, et tu as droit à l'éducation. Quand tu es en Afrique, on nous fait croire que la France, c'est un paradis. Genre, quand tu es là, tu as tout l'opportunité. Du coup, arrivé ici, j'ai plein de trucs positifs en France, plein. Mais la partie qui négative, c'est pas aussi si mal. De fait, je suis arrivée dans un pays qui est différent de mon pays. Du coup, j'ai eu des chocs culturels, genre, parce qu'on n'a pas même culture. Maintenant, là, Madame Maout, je n'arrive pas à l'appeler correctement. Parce qu'elle me dit de l'appeler par son prénom. Moi, je ne suis pas habituée comme ça. Personne âgée, on ne l'appelle jamais par son prénom. On dit Tati. C'est une manière de respecter. Du coup, la partie là, ça m'a marqué jusqu'à présent. Maintenant, je travaille à l'hôpital. J'ai fait la formation d'abord agent de service médico-social au Greta de Morlaix. Maintenant, je travaille à l'hôpital de Morlaix en tant qu'agent de service hospitalier. Ça fait 6 mois maintenant que je travaille là-bas. Ma vie maintenant, je suis contente. Ma patience a eu des fruits. Du fait que j'ai été patiente maintenant, je ne peux pas dire que j'ai tout, mais je vis bien grâce à 100.3. Ça a pris beaucoup de temps. Ça aussi, c'est des procédures. Seulement que titre de séjour, mais ça aussi, c'est une procédure qu'il faut suivre. J'ai suivi la procédure, ça a été difficile, mais le logement, j'ai été hébergée par Sampro, un toit, pendant 2 ans et demi. En France, pour moi, en arrivant en France, dans ma tête, que j'aurais ma liberté parce que je n'étais pas libre là où j'étais. Quand je dis que je n'étais pas libre, je faisais ce que disent mes parents. Genre, mon papa dit fais ça, si tu fais pas, tu es banni ou bien on te punit. Du coup, maintenant arrivé en France, je suis libre. Surtout, ça, ma liberté que j'avais besoin depuis.
C'est l'écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence. Écho du silence.
Son parcours pour arriver en France n'était pas des plus faciles et nous a touchés. Du coup, on voulait savoir si elle se sentait intégrée maintenant et comment elle imagine sa vie dans 2 ou 3 ans.
Oui, parce que dans mon lieu de travail, tout va bien. Pas à 100%, mais je me trouve... Au début, c'était pas comme ça, mais maintenant, je suis un peu intégrée. Socialement, et professionnellement, tout. Parce que j'ai été à l'école. Parce que l'intégration ici, surtout ici en France, je pense que pour nous, les étrangers, c'est à l'école. Il faut aller à l'école, même pas au lycée, mais il faut chercher à apprendre. Parce que c'est là-bas où on apprend plein de trucs concernant la France. Une vie stable, je commence déjà, parce que dans 2 ans, je me vois comme une infirmière, émotionnellement, financièrement stable. Même si je ne suis pas stable émotionnellement jusqu'à présent, surtout, ouais. Parce que j'ai encaissé, comme je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, du coup j'encaisse beaucoup. Jusqu'à présent, je ne suis pas stable émotionnellement.
C'est l'écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence. Écho du silence.
Quand j'étais petite, je rêvais d'être une... Parce que je jouais au foot. Quand je voyais les joueuses de foot à la télé, je rêvais, c'était mon rêve, mais ça a été brisé. suis fière de moi parce que je n'ai pas abandonné. J'ai tenu bon. Et c'est pour ça que je me félicite. Mon ancien moi, je dirais de rester elle-même, de tenir bon comme elle a fait, de ne pas lâcher.
C'est l'écho du silence.
Écho du silence.
C'est bientôt la fin du témoignage de Bounturabi. Écoutons ce qu'il y a à retenir de son intervention.
Remercier sans problème toi, qui ont fait tout pour moi. Toute ma vie, je vais remercier sans problème toi. L'accompagnement humain et la solidarité, ça peut changer une vie. Je suis la preuve. L'accompagnement humain et la solidarité. Parce que je suis arrivée en France, j'étais en détresse, mais me voilà aujourd'hui.
C'est l'écho du silence.
Écho du silence.
Nous avons trouvé l'histoire de Bounturabi très touchante. Pour approfondir notre compréhension du sujet, nous recevons Gilles et Geneviève, bénévoles de 100 pour un toit, qui vont vous expliquer le fonctionnement de l'association.
Alors, moi c'est Geneviève et mon collègue donc Gilles. Nous faisons partie du conseil collégial de l'association 100 pour un toit Morlaix-Co. Et donc nous appartenons au réseau des 100 pour un, qui diffuse sur toute la France. 100 pour un, c'est donc le principe, c'est 100 personnes qui donnent 10 euros ou plus pour financer un loyer d'un appartement. Donc nous, on a créé cette association 100 pour un toit Morlaix-Co en 2021 parce qu'on avait eu des appels au secours pour héberger des personnes sans papier. Et donc cette association a été créée à l'initiative de bénévoles d'associations morlaisiennes ou nationales d'ailleurs, qui sont donc l'ACAT, Amnesty International, l'ALDH, la Ligue des droits de l'homme, EMAL 29, qui est une association locale de Plouganou, Les Utopistes en Action et Morlaix Liberté.
Notre objectif, alors en fait, c'est pas seulement de les loger, c'est aussi forcément de leur donner un coup de main pour qu'ils aient quelque chose à manger et derrière ça, surtout, de les aider dans leur parcours de demande d'asile. En fait, en général, les gens qu'on accueille sont des personnes qui sont déboutées du droit d'asile, c'est-à-dire qu'ils sont passés par les CADA, c'est-à-dire les centres d'accueil des demandeurs d'asile et ils ont été déboutés à la CNDA, c'est-à-dire à la Cour nationale.
Et voilà, du droit d'asile.
Merci. Voilà. Et donc, nous, on arrive à ce moment-là. Non, la situation, c'est qu'ils ont soit une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français, soit ils ne l'ont pas. Quand ils l'ont, il est possible pour eux de repartir, mais en général, ils ne le veulent pas. Et parfois, ils ont une OQTF, mais la possibilité de partir, ils ne l'ont pas non plus parce que les pays d'où ils viennent ne donnent pas les papiers pour qu'ils le fassent. Donc, c'est toujours des situations critiques qui font que la plupart d'entre eux restent sur le territoire avec zéro droit, zéro possibilité de rien et avec aucune volonté de revivre le parcours horrible qu'ils ont vécu.
Oui, alors donc, ces familles-là, on les accompagne, donc on les loge. On les aide effectivement à avoir accès aux Restos du Cœur et Secours Populaire pour la nourriture. On les aide aussi pour la santé, pour la scolarité de leurs enfants, quand il y a des enfants. Et puis donc aussi pour les démarches administratives. Parce que comme l'a dit Gilles, ce sont souvent effectivement des personnes qui n'ont pas eu l'asile. Et du coup, ces personnes-là vont essayer de s'intégrer par le travail, par exemple, par la scolarité de leurs enfants, et essayer d'obtenir un titre de séjour pour rester en France.
Je voudrais compléter là-dessus, c'est de dire que, en fait, ce travail administratif, quelqu'un qui arrive de l'étranger et qui ne maîtrise pas non seulement la langue, mais aussi, on va dire, les schémas administratifs français, c'est même pas la peine de croire qu'il va réussir. C'est impossible. Donc l'aide, elle est absolument indispensable.
Alors, on est aussi au conseil collégial, on est 8 personnes et en général, on est une dizaine de bénévoles. Alors, on peut dire qu'on a 65 donateurs actuellement, donateurs soit ponctuels, soit des personnes qui donnent tous les mois. Donc, cet argent-là, il sert à financer 4 logements. Nous avons 4 logements sur le pays de Morlaix. Nous hébergeons donc soit des personnes seules, soit des familles. Voilà, donc nous payons le loyer pour certains logements. Et puis les charges pour tous les logements. Nous donnons aussi une petite allocation pour que les personnes puissent acheter des petites choses comme un forfait téléphonique par exemple.
Et le travail de l'association, concrètement, c'est beaucoup par des transports parce qu'il faut les emmener ici et là, des tas de choses comme ça. C'est aussi beaucoup favoriser l'intégration parce que l'intégration pour eux, c'est la langue d'évidence pour s'intégrer dans la société, que ce soit via l'école, via les associations. Pour ça, il faut qu'ils aient une aide. Et aussi, la langue, c'est extrêmement important parce que si jamais ils ont un titre de séjour, il faudra qu'ils prouvent qu'ils sont capables de parler français au moins un petit peu. C'est quelque chose qui est en train de se durcir d'ailleurs à ce niveau-là. Bientôt, il faudra avoir le niveau A2 pour pouvoir rester en France, en fait, même si on a un titre de séjour. On peut dire aussi qu'autour de l'aide administrative et juridique, on a quand même énormément l'aide d'une association qui s'appelle Morlaix Liberté ici et a cette expertise beaucoup mieux que nous parce que c'est terriblement chronophage.
Voilà. Et compliqué et très complexe.
Voilà. Et on a aussi l'aide, heureusement, de réseaux d'avocats qui vont aider gratuitement ou pas cher et qui sont des ressources drôlement importantes pour nous. Ce que je dirais aussi, c'est que la nécessité du conseil collégial, par exemple, ou des réseaux sans pour un toit, c'est-à-dire des communications qu'on a entre les associations, c'est que tout cet accompagnement, c'est aussi assez compliqué, assez angoissant pour toutes les personnes qui s'en occupent et que donc bah, la communication ensemble pour savoir d'abord ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est très compliqué, qui il faut aider, comment et pourquoi, c'est très compliqué. Et on a aussi souvent besoin de soutien psychologique.
C'est l'écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
On a pu observer que Sans pour un toit fonctionne en réseau. Mais pour en revenir à l'activité de l'association, Geneviève souhaite nous parler des réussites et Gilles des aspects plus contraignants au sein de la structure.
J'ai envie de dire nos réussites un peu, c'est les choses positives qui se sont passées depuis 2021. On a deux jeunes femmes, elles étaient demandeuses d'asile, hein, puisqu'on a dit tout à l'heure que c'était les déboutées, mais en fait on a aussi des demandeurs d'asile. Donc elles ont obtenu la protection de la France. Et donc il y a l'une d'entre elles qui va témoigner tout à l'heure. Bah, du coup, elles ont pris leur envol, elles ont leur logement, elles travaillent. Puis tout va bien, si on peut dire, pour elles. On a une deuxième famille qui, elle aussi, vient d'obtenir la protection de la France. Et l'autre réussite, c'est une famille qui est en demande de titre de séjour, dont les parents travaillent et dont les enfants réussissent de manière exemplaire au lycée. Et donc ça, c'est vraiment pour nous, je ne dirais pas que c'est une fierté, mais c'est gratifiant, oui, ça nous fait du bien, parce qu'on se dit que voilà, ces personnes qui sont arrivées il y a 4 ans, qui ne connaissaient pas un mot de français, et puis qui s'en sortent merveilleusement, il ne leur manque plus que le titre de séjour.
Il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, actuellement, le téléphone sonne un peu moins. On se passe le téléphone, je l'ai eu pendant un moment, pendant une période d'un mois, mais j'avais des appels de personnes en catastrophe, mais tous les 3 jours. Et oh là, mais je devenais chèvre. Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi assez angoissant de voir la misère des gens, parce que quand on aide, en fait, on ouvre aussi une porte et on voit tout ce qu'il y a à faire et c'est lourd.
Parce que c'est vrai que nous, on a 4 logements et on n'a pas les moyens d'en avoir plus, mais on a tellement de demandes, rien que sur le pays de Morlaix, quoi. Enfin, il y a énormément de personnes qui sont dans des situations dramatiques, à la rue ou hébergées à droite à gauche et qui nous appellent et à qui on est obligé de dire désolé, mais on ne peut pas.
Et avec, objectivement, peu de donateurs. C'est-à-dire que quand on a créé l'association, on pensait qu'il y aurait un rebond beaucoup plus fort que celui-là pour développer beaucoup, beaucoup plus d'accueil. Ce qui est nécessaire, parce qu'il faut quand même savoir aussi que sur le territoire ici, il y a un CADA, c'est-à-dire un centre d'accueil de demandeurs d'asile et aussi d'autres structures qui sont aussi des structures d'accueil comme ça. Et ça représente à peu près l'accueil d'une centaine de personnes. Oui. Une centaine de personnes qui peuvent être déboutées. Qui peuvent arriver et dire toc, 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 au secours.
Voilà. Donc, c'est vrai que ce qui nous manque, hein, c'est ça, c'est de l'argent, hein, toujours, c'est le nerf de la guerre, on sait bien, hein. De l'argent et puis des bénévoles qui accompagnent, parce que accompagner une famille, c'est aussi chronophage et donc ça demande vraiment de s'investir. Et donc, nous, on essaye de faire en sorte qu'une famille soit accompagnée toujours par 2-3 personnes, quoi. Voilà.
Alors ça, c'est très important. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure autour de l'aide qu'on a besoin. Jamais dans l'association, il y a une personne toute seule pour accompagner quelqu'un, pour que justement il y ait ce contrôle par rapport à tout ce qui se passe, puis aussi pour pas être mangé par ses propres angoisses à soi, parce que ça touche.
C'est l'écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Ah bah oui, il y a un énorme défi. Hein. Le défi, c'est qu'on voit là, avec la loi d'asile qui change, avec toutes les restrictions qu'il y a, que c'est de plus en plus difficile accueillir en se disant « Ah, peut-être qu'il y aura une solution. » Mais moi, c'est fou. Depuis que j'ai commencé, avant, je me disais « Ah, mais oui, il y a ça comme solution, ça comme solution. » Et depuis, hop, celle-là, ah non, il n'y a plus. Ah, celle-là, ah non, il n'y a plus non plus. Et donc, maintenant, c'est un petit peu ah, la lumière, on la voit dans le trou de souris un petit peu.
C'est très angoissant, en fait, parce qu'on se retrouve face à des personnes qui vraiment ont envie de s'intégrer en France, de faire leur vie en France, et on n'est pas du tout sûr que ça va marcher, quoi. Et que bah, peut-être la préfecture va dire, eh ben non, pas de titre de séjour, et au QTF, et pour eux, bien sûr, c'est angoissant, mais du coup, c'est vrai que nous, on porte une certaine responsabilité par rapport à ça. C'est difficile.
Il y a un autre défi dont je voudrais parler, parce que je trouve qu'il est drôlement important, c'est le défi permanent de se poser la question de ce qu'on fait et de pourquoi on le fait. Nos associations vont avoir tendance à dire « Ah, on aide, on aide, on aide ». Et la réflexion, ça veut dire une réflexion sociologique, politique, large, il faut qu'on l'ait en permanence. Et donc ça, c'est un défi permanent.
Parce qu'en aucun cas, on est dans l'hébergement d'urgence. On n'est pas du tout dans l'aide d'urgence. Chaque fois qu'on a pris la décision d'accompagner une famille, parce qu'on avait le choix entre plusieurs personnes, hein, et on a choisi, bah, c'était en sachant que cette personne ou cette famille, on allait l'accompagner dans la durée, sur plusieurs années. Voilà.
Oui, c'est-à-dire qu'a priori, quand on accueille quelqu'un, mettre des bémols là-dessus, on a fait un projet, on a établi un projet pour cette personne, quelque chose qui nous semble réaliste, on peut essayer d'emmener quelque part. Et donc il y a des gens comme ça qu'on connaît et tout, qui un jour étaient là, on n'avait aucune solution, puis un jour ils sont partis et ils sont je ne sais où. Voilà, ça c'est life.
C'est l'écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
On a compris qu'être bénévole à 100 pour un toit, c'est aussi une charge mentale et émotionnelle à porter. C'est bientôt la fin de cet épisode, mais avant de nous quitter, ils vont vous confier ce qu'il y a à retenir.
C'est très simple. C'est que pour moi, être venu pour donner un coup de main, c'est m'aider moi-même parce que je me sentais trop mal à ne pas le faire. Voilà. Et que ça me suffit pour agir. Ça ne veut pas dire que ça me suffit dans la démarche, hein, comme je viens de dire avant. Mais bon sang, c'est pas possible de vivre sans donner un coup de main à la personne d'à côté. Je sais pas, quand on a un sandwich et qu'on est deux à manger, bah, on partage son sandwich, c'est tout.
Moi, ce que je dirais, c'est que ce que l'on fait, c'est vraiment une goutte d'eau. Hein, et toutes les associations 100 pour 1 réunies en France, on fait c'est plusieurs gouttes d'eau. Ben, le peu de personnes qu'on a pu amener à vivre dans une situation normale, à s'intégrer en France, et ben, pour moi, c'est une victoire.
Et c'est vrai. Et puis, c'est beau de voir. Un jour, j'avais fait un récapitulatif de toutes les associations ou collectifs, pas très structurés, mais qui existaient, mais juste sur le Finistère. Et j'en avais trouvé 70. J'en revenais pas.
Alors, s'il y a des personnes qui souhaitent nous rejoindre, donc nous avons aussi un numéro de téléphone, que le 06 56 85 77 26. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, et en particulier pour nous aider en fait dans notre communication. Et si on s'adresse aux étudiants, peuvent peut-être nous aider dans ce domaine-là.
C'est l'écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
C'est la fin de cette émission sur les personnes en situation administrative irrégulière. Merci à Geneviève, Gilles et Bounturabi de nous avoir partagé leur parcours et leur savoir. Vous pouvez contacter l'association 100 pour un toit au 06 56 85 77 26. Retrouvez aussi tous les épisodes du podcast sur le site de Radio U et sur toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était l'écho du silence.